Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Blanche, je suis le directeur de la maison d'édition Terre Vivante. Alors Terre Vivante, on est un petit peu loin de Bordeaux, on est situé en plein cœur du Trièves et depuis plus de 25 ans. Terre Vivante a une histoire assez particulière que je vais brièvement résumer. Rassurez-vous, vous venez pas pour écouter Terre Vivante, mais pour écouter des choses beaucoup plus intéressantes. Sept militants écologistes passionnés, basés à Paris en 79, se sont dit qu'il était intéressant de parler d'écologie pratique, pas sociétale, pas politique, mais très concrète, pour essayer de préserver l'environnement, pour essayer de mieux manger, pour essayer de bien jardiner. Et quelques années plus tard, après quelques livres, surtout des traductions, après la création d'une revue qui s'appelle « Les quatre saisons du jardin bio », qui existe en kiosque, que vous pouvez trouver chez n'importe quel marchand de journaux, ils ont eu l'opportunité de dire « Et si on créait un centre écologique dans lequel on mettrait en exergue tout ce qu'on raconte depuis quelques années déjà, à travers nos livres et à travers la revue ?» Et à travers différentes rencontres, l'opportunité a été de s'installer entre le Vercors et le Dévoluy, au sud de Grenoble, sur 50 hectares de forêt, avec un sol argileux, un climat de moyenne montagne plutôt compliqué, plutôt difficile, et de prouver, par le travail quotidien, que sur une terre pauvre, sans l'adjonction de produits chimiques de quelque sorte que ce soit, on pouvait arriver à produire de manière intelligente, respectueuse de l'environnement et tout aussi productif finalement, tout ce qu'on pouvait manger demain à l'issue de ce potager. Donc aujourd'hui encore, dans le Trièves, vous avez la possibilité de visiter le centre de Terre Vivante. On y dispense des stages où chacun peut s'y débuter, se perfectionner aux techniques du jardinage bio. Et on a continué cette œuvre avec beaucoup de guillemets, qui est d'essayer de rendre accessible à tout un chacun, à travers cette revue, à travers ces différents livres, à la fois les techniques de jardinage, à la fois les dimensions de cuisine et d'alimentation saine, à la fois toutes les techniques qui ont évolué dans le temps sur l'habitat écologique, sur l'isolation, sur un certain nombre de techniques qui permettent de moins consommer d'énergie, et enfin sur une dimension bien-être et santé. Donc ce soir, et je remercie la librairie Mola de nous permettre de vous exprimer un petit peu quelques éléments de thématique, on a le plaisir de vous présenter une collection qui vient de se lancer, 4 titres autour de la nourriture sans gluten. Alors Terre Vivante est aussi proche des problématiques agricoles. Et sur cette problématique agricole, il y a des recherches en cours sur l'évolution des semences, l'évolution des plantes, qui a fait que notre alimentation a changé, un peu à notre, au nom de la productivité, un peu à nos dépens. Et qu'on réfléchit aujourd'hui à revenir à ce que nos arrière-grands-pères, grands-parents, voire plus loin, produisaient de manière saine et de manière efficace pour mieux manger et pour respecter l'environnement. Donc ce soir, vous allez entendre un certain nombre d'intervenants, dont une qui vient de très loin, et je l'en remercie, Maureen. Et je vais tout de suite passer la parole à Frédéric Barral, qui va animer la soirée pour vous, en espérant qu'elle soit bonne et instructive.
Merci Olivier. Ben, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. Je voulais remercier et vous présenter le docteur Maureen, en fait, qui m'accompagne en fait sur cette thématique ce soir, parce que quand on m'a demandé de faire cette conférence, en fait, je me suis dit que la meilleure chose que j'avais à vous partager, c'était mon expérience de malade cœliaque et maman d'une enfant cœliaque. Que je me suis mise en fait avec ma fille à manger sans gluten, j'ai eu de nombreux questionnements et j'ai trouvé des réponses. Ces réponses, je vais vous les apporter, mais le docteur Maureen en fait va elle apporter la caution scientifique à ces réponses. Voilà. Donc pour nous la vie. Ah oui, alors docteur Maureen, excusez-moi. Il nous vient des États-Unis, voilà, et c'est un médecin qui travaille avec le docteur Fasano, qui est un spécialiste de la maladie cœliaque et des problématiques, des pathologies liées au gluten aux États-Unis. C'est le directeur du centre de recherche voilà, sur les pathologies liées au gluten à l'hôpital du Massachusetts à Boston. Voilà, donc docteur Maureen fait partie de son équipe. Elle travaille depuis 5 ans maintenant avec le docteur Fasano sur ces problématiques liées au gluten. Voilà, donc je la remercie parce qu'elle est arrivée des États-Unis exprès. Voilà. Ensuite, nous avons donc Fiona et Fabien qui vont intervenir donc pour la traduction des explications du docteur Maureen. Donc merci également de m'accompagner sur cette thématique. Donc pour nous, la vie sans gluten a commencé il y a 7 ans quand ma fille a été diagnostiquée malade cœliaque. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait à l'époque pour nous c'était une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors une bonne nouvelle parce qu'en fait on avait la réponse à toutes ces problématiques de santé. Ma fille a aujourd'hui 13 ans. À l'époque donc elle souffrait de problématiques intestinaux chroniques, de problématiques de digestion chroniques. Elle avait sa courbe de croissance qui s'était complètement figée. Elle grandissait plus, ses cheveux poussaient plus, ça, il se passait rien au niveau des dents, voilà, ça poussait pas, ça tombait pas. Elle avait des problématiques de motricité fine, des problématiques de concentration, donc d'apprentissage. Il y a toute la vie sociale qui en était perturbée. D'une enfant très joyeuse, elle était devenue complètement introvertie. Voilà, elle avait perdu en fait, voilà, cette joie de vivre en fait qu'ont les enfants naturellement. Et quand on nous a dit que toutes ces problématiques avaient simplement comme lien le gluten, parce qu'elle était malade cœliaque, et ben pour nous, c'était une bonne nouvelle, parce qu'il nous suffisait en fait d'enlever une partie protéinique qui est contenue dans 4 céréales. Alors, je dis 4 céréales aujourd'hui, l'avoine, en fait, il y a une discussion autour de l'avoine, on pourra y revenir, si vous voulez, à la fin de la conférence, lors du passage du micro, pour répondre à vos questions. Donc, à l'époque, c'était le seigle qu'il fallait enlever, l'avoine, le blé et toutes les variétés de blé, donc le triticale, le froment, mais aussi les races plus anciennes comme le camut, le petit épeautre et le grand épeautre, qui contiennent également du blé, et puis l'orge, du gluten, pardon, et puis l'orge. Donc il fallait enlever simplement ces 4 céréales-là de notre alimentation et tout rentrer dans l'ordre. Donc pour nous, c'était une merveilleuse nouvelle. Il n'y avait pas d'hospitalisation, il n'y avait pas de traitement à vie, il y avait juste une éviction. Ça nous semblait, à cette époque-là, en fait, relativement simple. Alors, avant de continuer, voilà, docteur Maureen Léonard, qu'est-ce que le gluten, exactement?
So, gluten is a protein found in wheat, rye and barley.
Donc, le gluten est une protéine qu'on trouve dans le ce que tu viens de dire. Voilà.
It's made up of two proteins, gliadin and glutenin.
Donc, il est fait de deux protéines qui sont la gliadine et la gluténine.
And when we think about celiac disease and gluten-related disorders, we are focusing on gliadin.
Et quand on parle de problèmes liés au gluten, on se focalise sur la gliadine.
And that's because that's a protein that no one can completely digest.
Ça, c'est parce que c'est une protéine que personne ne peut vraiment digérer.
And so it can sit in the small intestine and interact with the immune system.
Parce qu'elle se place dans l'intestin et interagit avec le système immunitaire.
Donc le gluten, en fait, il est présent dans notre alimentation, comme vous l'avez vu, dans les céréales. Et c'est lui qui rend la pâte panifiable. En fait, c'est lui qui a cette capacité de liant et d'élasticité qui rend les pâtes panifiables. Donc nous, à l'époque, voilà, on s'est dit, bah, voilà, faut enlever le gluten, on enlève ces 4 céréales. Alors on a commencé par enlever tout ce qui contenait ces céréales, évidemment tous les produits de boulangerie. Et puis les gâteaux secs, les pizzas, les pâtes, voilà. Oh, sorry. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. En fait, on s'apercevait que ma fille avait toujours des problématiques. Et je me suis rapprochée d'associations, voilà, pour mieux comprendre le mécanisme de la maladie, pour rencontrer des spécialistes et puis pour rencontrer des familles aussi, qui ont au moins un membre dans leur famille qui a cette problématique. L'idée, c'était vraiment de comprendre pour accompagner. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a le gluten qu'on connaît dans les céréales, mais il y a aussi beaucoup de gluten caché. Et quand on se rend dans un supermarché et qu'on regarde les produits, on s'aperçoit qu'on trouve du gluten dans la charcuterie, dans les bonbons, dans les crèmes glacées, dans les crèmes lactées, dans la mayonnaise, dans les bouillons cubes, dans le ketchup, dans énormément de produits en fait qui, si il y a quelques décennies, ne faisaient pas partie de notre vie quotidienne, aujourd'hui ils font partie de notre vie quotidienne et sont vraiment sur l'étape de la majorité des familles aujourd'hui. Donc en fait, le gluten, il est très rare qu'on n'en ait pas à chaque repas en Occident. Donc voilà, on a appris à lire les étiquettes, on s'est un peu effrayé d'ailleurs, parce que je regarde Fabien, parce qu'en fait c'est mon époux. Donc voilà, donc on a été un peu effrayé parce qu'effectivement on se rendait compte que y a plein de produits, en fait même au-delà du gluten, qui sont ajoutés comme adjuvants, comme texturants, etc., dont le corps n'a absolument pas besoin, qui n'ont aucune valeur nutritive et en fait dont le corps doit apprendre à se débarrasser au fil du temps et qui s'encrasse avec tout ça. Donc voilà, on a appris à lire les étiquettes et on a exclu aussi tout le gluten caché de notre alimentation. Et puis ça ne suffisait pas. On s'est aperçu en fait que chaque fois qu'on allait manger à l'extérieur, on avait de nouveau des rechutes on avait les rechutes de la maladie à gérer. Donc en fait, il faut savoir que la maladie cœliaque, en fait, c'est une maladie auto-immune qu'on traite exactement comme une allergie. Le docteur Maureen Léonard reviendra sur le sujet. Vous pouvez expliquer la différence entre les différentes pathologies liées au gluten, et notamment l'allergie. Mais c'est vrai qu'avec une maladie cœliaque, on doit faire attention aux traces. Donc un enfant ne peut pas manger à la cantine. Un enfant, il est très difficile de garder en fait une vie sociale normale et de garder cette spontanéité d'invitation au restaurant ou chez les gens, parce qu'en fait, quand dans une cuisine on cuisine avec du gluten, même si on fait un repas qui est sans gluten, il y a toujours le risque en fait qu'une miette de pain soit tombée dans l'assiette, qu'une farine volatile soit déposée sur votre feuille de salade. Et au restaurant, c'est la même problématique. Au début, on se disait, on va prendre un steak frites, il n'y a pas de souci. Eh bien non, parce qu'en fait, les frites, qui sont souvent surgelées, sont recouvertes d'une panure. Cette panure, en fait, elle contient du gluten. Elle est là, en fait, elle est utilisée pour que les frites ne collent pas entre elles dans la friteuse. Donc voilà, donc on était déjà contaminés. Le steak, là, si vous ne vous assurez pas que c'est un 100% pur bœuf, ça peut être du steak reconstitué. Et dans un steak reconstitué, la majorité du temps, il y a du gluten utilisé comme texturant. Si vous dites que c'est des frites fraîches, je crains rien, il faut quand même s'assurer que la friteuse n'est pas servie à être utilisée pour d'autres panures, comme des poissons panés, par exemple, ou autres. Voilà, les risques de contamination sont multiples. Notamment, même, je me souviens, on faisait du barbecue. Voilà, une personne me disait, mais c'est bon, même si ma chipolata contient du gluten, avec le feu, t'as pas de souci. Au début, je le pensais. Et en fait, non, vraiment, j'ai eu l'information. Non, la flamme, même qui vient lécher la grille, ne tuera pas le gluten présent. Voilà, énormément de risques de contamination. Et quand on est malade cœliaque, en fait, on doit faire attention à tous ces risques de contamination. Comme je vous le disais, la maladie cœliaque, c'est quoi? C'est donc une maladie auto-immune. Maladie auto-immune, en fait, c'est une réaction du système immunitaire, une réaction complètement inadaptée du système immunitaire. Alors, en l'occurrence, dans le cas de la maladie cœliaque, c'est une réaction par l'ingestion de gluten contre l'intestin grêle. Alors, il faut avoir une prédisposition génétique. Là encore, on y reviendra avec le docteur Maureen tout à l'heure. Il faut avoir une prédisposition génétique, manger du gluten, et il y a une attaque de l'intestin grêle. L'intestin grêle, on l'appelle aussi petit intestin, ce qui est un peu bizarre parce qu'il fait en moyenne, je crois, si je ne me trompe pas, 5 mètres de long chez un adulte. Donc on ne parle pas du gros intestin, mais du petit intestin. Dans ce petit intestin, en fait, c'est une sorte de tuyau. Je vulgarise un peu le vocabulaire, je ne suis pas médecin, je ne m'adresse pas à des médecins. Le docteur Maureen Léonard donnera plus de précisions tout à l'heure d'ordre médical. Donc ce tuyau, en fait, cet intestin grêle est fait de villosités. Ces villosités, en fait, ce sont des sortes de replis en fait, qui tapissent l'intestin. Et elles ont pour rôle, en fait, de multiplier les zones d'absorption. En fait, c'est dans l'intestin grêle que se fait une majorité de l'absorption de nutriments, glucides, protéines, mais surtout les folates et le fer. Lorsqu'on a une maladie cœliaque, donc il y a une autodestruction, en fait, une personne cœliaque qui mange du gluten voit une autodestruction de ses villosités intestinales. Donc elles sont d'abord atrophiées et puis elles peuvent à certains endroits vraiment être très fines. En fait, on le voit, ces villosités sont vascularisées, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a l'absorption. Donc la première des problématiques en fait d'un malade cœliaque qui s'ignore ou qui ignore qu'il est cœliaque ou qui va avoir fréquemment des rechutes par ingestion de gluten, même si elles sont accidentelles, c'est que ces villosités en fait vont provoquer une malabsorption, c'est-à-dire un enfant comme ma fille par exemple, ce qui s'était produit, c'est que bien que mangeant normalement, en fait, elle souffrait de malabsorption. Les nutriments n'étaient pas absorbés de manière optimale. Assimilés, merci. Il en résultait donc cette courbe de croissance qui avait chuté. Il en résultait des problématiques autres que simplement des problématiques digestives, des problématiques extra-digestives, c'est-à-dire avec tous ces problèmes de concentration. En fait, on le sait que quand une personne est en malnutrition, par instinct de survie, les organes vitaux, c'est ce qui est nourri en premier. Le cerveau, c'est ce qui est nourri en second, voire en dernier. Donc, en fait, toutes les problématiques associées, les premières problématiques qu'on peut constater, en fait, entre une maladie cœliaque et les problématiques d'ordre neurologique, comme la motricité fine, problème de concentration et autres, elles ont d'abord une réponse par un manque, en fait, d'éléments nutritifs nécessaires au fonctionnement des organes vitaux et notamment, nécessaires à la vie, quoi, et notamment du cerveau. Donc, quand je me suis rapprochée de ces associations, donc j'apprenais donc que la maladie cœliaque c'était une maladie auto-immune, qu'il fallait une prédisposition génétique à cette maladie, qui avait donc des symptômes qui étaient d'ordre digestif. Donc on en parle très souvent. Hein, c'est souvent voilà, des diarrhées, des crampes intestinales, des brûlures parfois même intestinales. Et puis il y a des symptômes extra-digestifs comme des maux de tête fréquents, des douleurs articulaires. Voilà, des symptômes qui sont en fait divers et variés et de fréquences différentes en fait chez les gens, et ce qui rend le diagnostic plutôt difficile. Il y a souvent en fait les symptômes sont très proches souvent par exemple des maladies de Crohn ou du syndrome du côlon irritable, pardon. Et donc souvent les médecins ont du mal en fait à trouver dans un premier temps que c'est une maladie cœliaque. Pourtant, il suffit juste d'une prise de sang en fait à la recherche d'anticorps spécifiques, les IgA, les anticorps transglutaminase. Donc c'est juste une prise de sang, voilà, c'est des anticorps qui sont spécifiques à la maladie. On peut vous envoyer pour faire une précision de diagnostic. Parfois les gastro-entérologues vous envoient faire une biopsie intestinale. Il faut savoir que si vous voulez être reconnu comme malade cœliaque par la sécurité sociale, c'est-à-dire recevoir les 30 et quelques euros par mois de remboursement sur l'achat des produits, il faut avoir fait cette biopsie intestinale. Voilà. En France, dans les pays limitrophes comme l'Italie, c'est 100 à 150 euros par mois. Donc c'est déjà bien, 30 euros, mais on est loin. Voilà. Il y a encore des choses à faire. J'apprenais donc aussi qu'il y avait une forme asymptomatique en fait de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souffrent de maladies cœliaques et en fait qui n'ont pas de symptômes digestifs. Et là, ça commençait à m'interroger parce qu'en fait, au-delà de ça, j'apprenais que quand on est cœliaque, qu'on l'ignore, voilà, qu'on s'ignore, qu'on ignore les signes ou qu'on n'a pas de signes symptomatiques vraiment frappants, en fait, on développe d'autres maladies, et notamment d'autres maladies auto-immunes, comme des thyroïdites d'Hashimoto, une maladie auto-immune de la thyroïde, des diabètes de type 1. On a une prédisposition au cancer digestif, aux occlusions intestinales, aux infertilités, et j'en passe. Donc, en fait, ce n'est pas une maladie dont on meurt tout de suite, mais en gros, on en meurt à petit feu. Et à cette époque-là, en fait, quelques mois après avoir commencé le régime sans gluten pour ma fille, eh ben je me rendais compte en fait, au fur et à mesure que j'avais ces informations, que peut-être qu'effectivement, moi aussi, j'avais la maladie cœliaque. À cette époque, je souffrais d'une endométriose. Ça fait partie aussi des maladies en fait, qu'on peut développer lorsqu'on a une maladie cœliaque qu'on ignore. Et j'avais une thyroïdite d'Hashimoto. Donc à l'époque, on parlait même d'une ablation de la thyroïde. Et voilà, je savais qu'il y avait une prédisposition génétique, je savais qu'il y avait une forme asymptomatique, et je savais que moi, déjà, j'avais développé en fait, des maladies qui pouvaient être complètement liées à une maladie cœliaque. Donc j'ai fait cette prise de sang. Et effectivement, oui, j'avais un taux d'IgA élevé, j'étais malade cœliaque. Donc je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi j'ai arrêté tout examen médical et je me suis mise à manger sans gluten. Et un an après, j'ai refait ces examens et je n'avais plus de thyroïdite d'Hashimoto et je n'avais plus de problème au niveau de l'utérus. Donc c'était pour moi déjà le premier cri d'alarme où on se dit, mais en fait, notre alimentation, ça peut être notre meilleur médicament, mais aussi notre pire poison. Voilà. Après, je me suis posé la question, mais en fait, je rencontre des familles où dans la famille, il y a un enfant qui est cœliaque, mais les parents n'ont rien et la fratrie n'a rien. Pourtant, il y a cette prédisposition génétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on redevient vraiment cœliaque? Oui, il faut une prédisposition génétique. Oui, il faut manger du gluten. Mais il y a un autre facteur en fait, que j'apprenais, c'est qu'il y a un facteur déclenchant. Ce facteur déclenchant, il est commun en fait, à toutes les maladies auto-immunes qui sont aujourd'hui, on le sait et on le dit nettement, en recrudescence dans notre société. Ce facteur déclenchant, en fait, toutes les maladies auto-immunes en fait, ont ce facteur déclenchant. Ce n'est pas forcément le même pour toutes les maladies auto-immunes. En tout cas, il y a un facteur déclenchant qui existe. La problématique, c'est que la médecine aujourd'hui ne sait pas en fait, le définir. Elle ne dit pas clairement de quoi il s'agit. Donc, on parle d'un choc émotionnel ou d'un virus, d'un choc physique. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient senti en fait, le commencement des symptômes après un vaccin, notamment pour partir à l'étranger, par exemple. Des personnes qui sont revenues avec une bactérie de l'étranger et qui ont commencé en fait à développer une maladie cœliaque. Et puis tous les facteurs environnementaux, c'est-à-dire notre manière de vivre, le stress quotidien. En fait, on sait peut-être qu'on s'éloigne, en fait. Moi, je m'interroge, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de ce dont a besoin réellement l'être humain, en fait, pour vivre. On est dans une société hyper stressée, et puis il y a toute cette pollution, en fait, pollution industrielle et pollution alimentaire. Donc aujourd'hui, en fait, ce facteur déclenchant, on ne le connaît pas réellement. Par contre, on sait que la recrudescence, en tout cas, quand je dis on, c'est les scientifiques et les médecins, pensent que la recrudescence de ces maladies auto-immunes aujourd'hui sont certainement liées à la présence plus forte dans notre société d'aujourd'hui à ce fameux facteur déclenchant. On est en train de dire que la maladie cœliaque, ça va devenir, c'est en train de devenir la maladie digestive la plus courante. Voilà. Donc, docteur Maureen, quand je parlais des symptômes qui sont digestifs et des symptômes extra-digestifs, docteur Maureen, quels sont les symptômes extra-digestifs à la maladie cœliaque?
What are the extra extra-intestinal manifestations?
So, for many years, we thought that celiac disease was a disease that was primarily in children and primarily presented with gastrointestinal symptoms.
Donc pendant des années, on a pensé que la maladie cœliaque c'était surtout chez les enfants et que les symptômes étaient principalement intestinaux.
But over the past 15 years, we've come to understand that this is truly a systemic autoimmune disease.
Donc depuis les
15
dernières années, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus important que ça, et que ça va plus loin que ça.
And it can affect any tissue and organ in the body.
Et ça peut affecter n'importe quel tissu et organe du corps humain.
So people can present without symptoms, but be diagnosed because there's a family member with celiac disease.
Certaines personnes peuvent être diagnostiquées cœliaques sans avoir de manifestations et avoir une personne de la famille qui est cœliaque.
Or they may have a skin rash.
Oui, il peut avoir des problèmes de peau.
Anxiety or depression.
Des dépressions ou de l'anxiété.
Seizure disorder.
I don't know this one.
Epilepsy.
De l'épilepsie.
And joint pain, just to name a few.
Yeah, des problèmes de articulation. Articulaire.
Ouais, en fait, donc. On peut très bien développer on peut naître avec une maladie cœliaque, mais on peut la développer à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, voire même à 60 ans, où on peut avoir cette prédisposition génétique et ne jamais développer la maladie cœliaque. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que si vous avez fait les tests, il y a 10 ans, vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui d'être malade cœliaque. Le fait qu'il y ait ces symptômes extra-digestifs, ça rend davantage compliqué le diagnostic en fait, d'une maladie cœliaque. C'est-à-dire qu'en allant voir le médecin, peut-être il ne mettra pas le doigt tout de suite sur la maladie. En fait, j'ai envie de vous partager quelque chose. Ma mère est née prématurément d'un cancer digestif. Morte, pardon. C'est un beau lapsus.
Oui, c'est notre...
Et en fait, elle a... Avant ça, elle a eu, on a vécu en fait, des problèmes digestifs récurrents. Elle a développé ensuite un diabète de type 1. Elle a développé ensuite une maladie auto-immune de la thyroïde. Et puis elle a fini par développer un cancer digestif, une occlusion intestinale. Et puis, elle en est décédée. En fait, à cette époque-là, moi, je savais pas que j'étais cœliaque. Ma fille n'avait pas encore été diagnostiquée. Et je ne saurais jamais si elle était cœliaque. En tout cas, il n'y aura pas eu de diagnostic médical. Aujourd'hui, j'en suis persuadée. Voilà, elle a eu vraiment tous les symptômes et elle en est arrivée là. Je pense que si... Je ne sais pas, je ne peux pas savoir si elle aurait vécu plus longtemps ou si elle avait été diagnostiquée à temps. Mais en tout cas, si je suis là aujourd'hui aussi, c'est pour ça. C'est qu'il existe vraiment en fait, des maladies qui peuvent avoir comme simple élément déclencheur l'alimentation. Et c'est important du coup d'être à l'écoute de soi. Et je sais encore, il y a encore des gens en fait qui me contactent, qui me disent mais mon médecin n'a pas voulu me prescrire la prise de sang. Eh bien allez-y quand même au laboratoire et faites la prise de sang. Enfin, peut-être qu'à un moment donné, la prise en charge aussi de notre santé, elle doit se faire individuellement. Forcément, on a besoin d'un soutien et forcément, on a besoin du corps médical. Mais on a besoin aussi de savoir s'écouter et de se poser les bonnes questions. Docteur Maureen Léonard, alors on parlait de prédisposition génétique. Alors, quelles sont exactement ces prédispositions génétiques à la maladie cœliaque ?
So in order to develop celiac disease, you need to carry a specific genetic predisposition.
Donc pour développer la maladie cœliaque, il faut avoir une des prédispositions génétiques.
These genes are called HLA-DQ2 and DQ8.
Donc ces gènes sont appelés HLA-DQ2 et DQ8.
And these are necessary but not sufficient to cause disease.
Donc ils sont nécessaires pour développer la maladie cœliaque, c'est pas parce qu'on les a qu'on va développer la maladie cœliaque.
30-40% of the general population carries these genes.
Donc 30-40% de la population a ces gènes.
But only 2% go on to develop celiac disease.
Mais seulement 2% développent la maladie cœliaque.
So there are some other unknown factors that we don't yet know that causes someone to go on to develop disease.
Donc il y a d'autres facteurs qui déclenchent cette maladie qu'on ne connaît pas encore exactement.
Et on aurait bien ces fameux facteurs déclenchants. Et personnellement, je trouve que c'est 30 à 40% de personnes qui ont une prédisposition. C'est énorme. Aujourd'hui, sur ces 30 à 40%, il y a 2% de la population voilà, qui développe. Mais qu'en sera-t-il demain, en fait, si on ne trouve pas quel est cet élément déclencheur et s'il est d'autant plus présent dans notre vie quotidienne? Voilà. Combien de cœliaques il y aura demain?
So, this is your part.
Yeah.
So, what is the mechanism of this immunity disease?
Voilà. Quels sont les mécanismes réellement, en fait, d'une maladie auto-immune? Voilà.
So I said in order to develop celiac disease, you need to have the genetic predisposition.
Donc il faut avoir les prédispositions génétiques dont on a parlé. Il y a trois éléments.
You need to be eating gluten.
Il faut manger du gluten, sinon ça se déclenche pas.
And you also need some way for the undigested gluten fragments to get from the small intestine to the immune system.
Et il faut que les petits éléments de gluten qui ne sont pas digérés passent de l'intestin qui est censé les évacuer dans le système sanguin.
And that we refer to as increased intestinal permeability or gut leakiness.
Donc c'est ce qu'on appelle en fait la perméabilité intestinale.
And finally, there's another factor that we don't yet know and we're still investigating.
Et il y a un autre facteur qu'on ne connaît pas et qu'on est en train d'étudier.
So when we look on the, what is that, your right side, we can see that when someone eats gluten, it's not completely digested.
Donc sur la droite, on peut voir en fait que les personnes qui mangent du gluten, le gluten n'est pas entièrement digéré.
And those gliadin fragments can sit on the small intestine.
Et ces particules de gliadine, particules, restent sur le petit intestin, sur les parois du petit intestin.
And when it sits there, it can interact with a molecule called zonulin.
Et quand ils sont sur cette partie de l'intestin, ils interagissent avec une molécule qu'on appelle la zonuline.
Dr. Fasano discovered zonulin in the year 2000.
Donc le docteur Fasano, avec qui travaille le docteur Morin, a découvert cette molécule, la zonuline, en 2002.
And before that discovery, we thought that the cells in the small intestine always were held tightly together.
Donc avant cette découverte, on pensait que les cellules du petit intestin étaient tout le temps serrées.
And the discovery of that molecule was the discovery of a gatekeeper to the all of the proteins holding the cells tightly together.
Donc la découverte de cette zonuline a montré qu'on pensait comme une sorte de portail qui empêchait les particules de passer dans l'intestin, dans le système, pardon.
So when we now understood that the cells could move apart, this helped explain autoimmune disease because now we can understand how things move from the small intestine and interact with the immune system.
Maintenant qu'on a compris comment ce système marchait avec cette possibilité d'ouverture et de fermeture, on comprend comment les éléments passent dans le système et comment on développe des maladies auto-immunes.
So specifically for celiac disease, gluten interacts and causes the release of zonulin.
Donc spécifiquement pour les malades cœliaques, le gluten interagit avec cette zonuline et ouvre donc ses interstices.
The cells move apart and gluten can come through.
Donc les cellules s'écartent et le gluten traverse et passe dans le système.
And then it interacts with the immune system and inflammation starts.
Et c'est là que le gluten passe dans le système et qu'il y a des inflammations.
Oui. En fait, oui. Si je peux reprendre et vulgariser un petit peu tout ça, en fait, je vous expliquais tout à l'heure que l'intestin grêle en fait joue un rôle dans l'absorption des nutriments. Voilà, il laisse passer en fait les molécules nécessaires à la vie, enfin les nutriments nécessaires à la vie, les vitamines et autres. Folate FR, comme je vous le disais spécifiquement. Mais aussi, en fait, on sait que l'intestin grêle joue un rôle de protection, en fait. Il a comme ça, en fait, comme des jonctions serrées, voilà, qui permettent, en fait, qui évitent, en fait, que des grosses molécules pathogènes qui n'ont rien à faire dans le système sanguin passent dans le sang. En fait, ces jonctions serrées, la grande découverte du docteur Fasano avec cette zonuline, c'est qu'on a découvert en fait qu'entre autres le gluten, en fait, que cette zonuline en fait intervenait dans l'ouverture de ces jonctions serrées et que le gluten en fait accentuait la production de zonuline. Donc en fait accentue donc du coup le problème de porosité intestinale. Et c'est ce que le docteur Maureen Léonard expliquait du coup, c'est que de grosses molécules passent dans le sang alors qu'elles n'ont rien à y faire. Voilà. Donc on en vient à une autre pathologie en fait liée au gluten. Donc moi c'est vrai que je témoigne le mieux en fait de la maladie cœliaque parce que c'est ce dont, enfin là, ça fait partie de notre quotidien, moi et ma fille. Mais il y a trois pathologies en fait reconnues. On ne parlera pas que d'elles, vous verrez. Mais en tout cas il y a trois pathologies reconnues. Donc cette maladie cœliaque, il y a aussi l'hypersensibilité. Cette découverte en fait de la zonuline est une grande importance pour comprendre en fait l'hypersensibilité au gluten. Je rencontre vraiment encore des gens ou des médecins malheureusement qui nient en fait cette hypersensibilité au gluten en France, alors que voilà, c'est déjà un sujet d'étude aux États-Unis et notamment dans le centre de recherche du docteur Fasano. Donc je repasse la parole au docteur Maureen Léonard pour parler plus précisément de cette pathologie.
So gluten hypersensitivity or non-celiac gluten sensitivity is a clinical diagnosis that we make when someone who eats gluten feels sick.
Donc l'hypersensibilité au gluten, ou aussi appelée la sensibilité au gluten non cœliaque, c'est ce qui arrive en fait quand des gens mangent du gluten et qu'ils en sont malades sans avoir la maladie cœliaque.
They have many of the same symptoms that a patient with celiac disease has.
Ils ont les mêmes symptômes en fait que les malades cœliaques.
But they don't test positive for celiac disease.
Mais ils ne sont pas reconnus positifs au test de la maladie cœliaque.
They also have been tested but test negative for wheat allergy.
Ils sont aussi testés négatifs à l'allergie au blé.
So this is again something we make clinically because we don't have any tests to measure this and look for this disease.
Donc ce sont des choses qui se font cliniquement parce qu'on n'a pas de moyen de quantifier cette hypersensibilité.
And because of that, we don't understand the pathogenesis like we do for celiac disease.
Et du coup, on ne connaît pas en fait le bagage génétique pour développer cette hypersensibilité.
En fait, il n'existe pas de facteurs en fait qui sont visibles par le corps médical. Donc, aujourd'hui, un médecin ne peut pas clairement, comme la maladie cœliaque, on fait une prise de sang. Voilà, il y a les IgA qui nous indiquent un taux d'anticorps élevé spécifique à la maladie, qui nous dit spécifiquement oui, vous êtes malade cœliaque. Pour l'hypersensibilité, en fait, ça, on n'a pas encore ce marqueur-là. Donc, c'est très difficile en fait pour un médecin de diagnostiquer une maladie cœliaque. Le meilleur moyen, en fait, c'est l'éviction. L'hypersensibilité au gluten, voilà. Donc le meilleur moyen, c'est l'éviction. Voilà, on évite de manger du gluten, on voit si on va bien et si vraiment les symptômes s'amoindrissent ou disparaissent, oui, on peut s'imaginer qu'on est hypersensible. Alors on entend beaucoup de personnes qui vous disent ah bah si tu penses avoir une problématique avec le gluten, bah mets-toi à manger sans gluten et puis tu vois ce que ça donne. C'est pas quelque chose que je conseillerais parce qu'en fait je rencontre trop de gens qui ne savent pas au final du coup s'ils sont cœliaques ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à manger sans gluten et comme ils mangent sans gluten, même si aujourd'hui ils font les tests de la maladie cœliaque, ils seront reconnus négatifs parce que pas assez de gluten pour développer un taux d'anticorps important dans le sang. Pourquoi c'est important de savoir si on est cœliaque avant de se mettre à manger sans gluten, si on pense avoir une problématique avec le gluten? C'est parce que c'est important déjà parce qu'il va falloir que vous fassiez attention aux traces. Quand on est hypersensible, alors il y a différents taux d'hypersensibilité. Je vous rapporte en fait les témoignages que j'ai autour de moi. Il y a des personnes qui peuvent manger facilement des produits qui vont contenir des traces de gluten, qui sont hypersensibles et qui n'auront pas d'effet notoire. D'autres personnes pour qui ça sera déjà trop. sur la législation au niveau du sans gluten, comment on peut, à quel moment un industriel peut marquer sans gluten ou autre. On peut y revenir dans les questions si vous voulez, mais je ne vais pas m'étendre ici. Donc il y a différents taux d'hypersensibilité. Mais par contre, quand on est malade cœliaque, on ne peut pas se permettre la moindre trace, parce que la moindre trace, en fait, redéclenche les mécanismes de la maladie et on met clairement sa vie en danger et son bien-être général de toute façon. Et l'autre point, en fait, aussi, pourquoi il est important de savoir si on est cœliaque ou hypersensible, c'est que si on est cœliaque, il faut en fait passer le message à sa fratrie, parce que la fratrie ou à la famille, parce que on peut s'imaginer qu'au moindre symptôme, par exemple, d'un enfant qui, même s'il a une maladie cœliaque asymptomatique au niveau des symptômes digestifs, mais qu'il a d'autres problématiques comme un trouble de l'attention. Des difficultés de mémorisation. Ce genre de choses, en fait, ça peut vraiment avoir un lien. Et le savoir si dans la famille, on a quelqu'un de cœliaque, ça permet, en fait, à des parents, notamment, d'être en alerte et de se rendre compte si... Donc, c'est vrai que je pense vraiment qu'il est important d'écarter la maladie cœliaque avant de se mettre à manger sans gluten, parce qu'on a une suspicion d'hypersensibilité au gluten. Voilà. Ensuite, la troisième pathologie, c'est l'allergie. Ça met aussi en marche le système immunitaire de manière... L'allergie au blé, j'ai dit quoi ? Allergie au blé. Donc, ça met aussi en marche le système immunitaire, mais de manière complètement différente que la maladie cœliaque. Donc, le docteur Maureen va nous expliquer ça.
So wheat allergy is what we call an immediate hypersensitivity reaction.
Donc l'allergie au blé, c'est ce qu'on appelle
l'hypersensibilité.
Réaction immédiate en fait du système immunitaire.
So when someone with wheat allergy eats wheat, there is a very strong immune response immediately.
Donc quand quelqu'un est allergique au blé et pas au gluten, au blé, il y a une réaction allergique immédiate.
And this leads to mouth swelling, throat swelling, hives, and other gastrointestinal issues.
Donc, ce sont des réactions comme des allergies, c'est-à-dire sudation, problèmes de peau, enfin gonflement, vraiment comme une urticaire, comme une allergie.
And so, oftentimes people say that they have a gluten allergy if they have celiac disease or gluten hypersensitivity.
Donc on confond souvent, beaucoup de gens disent qu'ils ont une allergie au gluten, alors que quand c'est une maladie cœliaque ou une hypersensibilité au gluten.
Technically, that's incorrect because it's a different pathophysiology.
Donc c'est techniquement incorrect parce que c'est pas du tout la même réaction.
But for people with celiac disease and gluten hypersensitivity, it's so important to stay gluten-free that using the term gluten allergy helps to let others know how serious it is.
Et du coup, en fait, il y a une façon. On dit souvent ceux qui sont cœliaques ou ils sont hypersensibles au gluten utilisent le mot allergie au gluten pour que les gens comprennent à quel point c'est important et c'est dangereux. Du coup, c'est une question, je reviens là-dessus, parce que du coup, moi, je suis concerné. C'est vrai que la plupart des gens, on leur dit qu'on est allergique au gluten, ça fait réagir tout de suite parce qu'ils ont peur des réactions instantanées. Alors qu'on est malade cœliaque, les réactions ne sont pas instantanées. Mais c'est important que les gens comprennent à quel point c'est grave.
Oui, comme c'est quelque chose qui est plutôt invisible, la maladie cœliaque, en fait, les personnes souvent n'apportent pas une importance. Voilà, quand on va dans un restaurant, par exemple, et qu'on dit qu'on est malade cœliaque et qu'on veut une prise en charge, en fait, on s'aperçoit que il y a une réaction plus forte et plus sérieuse, en fait, quand on emploie le mot allergie, parce qu'ils ont peur qu'on fasse un œdème de quick là devant leurs yeux, etc. Donc très souvent, on dit qu'on est allergique, même si c'est faux. Il faut savoir aussi qu'il y a un amalgame fait entre le mot intolérance. En fait, en France, la maladie cœliaque est une maladie auto-immune qu'on appelle aussi intolérance au gluten. On fait souvent l'amalgame aussi avec l'hypersensibilité au gluten. Et pourtant, en France, le mot intolérance est utilisé pour la maladie cœliaque. Beaucoup de médecins sont d'accord pour dire que c'est une aberration. On n'aurait jamais dû appeler ça l'intolérance parce qu'on parle aujourd'hui énormément d'intolérance à d'autres aliments comme la pomme ou autre chose. Et on fait souvent la distinction. On a l'impression quand on dit qu'on est intolérant au gluten, on est hypersensible. Et non, quand on est les vrais termes, c'est que l'intolérance, c'est la maladie auto-immune, c'est la maladie cœliaque. Donc là aussi, il y a une une difficulté de vocabulaire qui rend la compréhension des choses un peu compliquée. Et notamment, même quand on lit des ouvrages en langue anglaise, bah, très souvent, la traduction est mal faite. On comprend en fait que la personne, en tout cas quand on est averti, on comprend que la personne parle de l'hypersensibilité, alors que le mot employé, c'est intolérance, parce que la personne employait intolérance, qui en anglais voilà, correspond à l'hypersensibilité. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment l'allergie au blé. Il y a la maladie auto-immune, qui est la maladie cœliaque qu'on appelle en France l'intolérance, et il y a l'hypersensibilité. Ce sont vraiment les trois pathologies en fait, qui sont reconnues aujourd'hui comme étant liées au gluten. Après, il y a d'autres pathologies dont on va parler, qui sont en étude. Voilà. Pardon ? Oui, on aura un temps de questions après la conférence. Gardez-les bien en tête, voilà, comme ça on aura vraiment un moment d'échange. Un micro circulera et on prendra un temps pour ça avec plaisir. Voilà, donc docteur Léonard, voilà, alors, la différence entre ces trois pathologies. Voilà.
So, with wheat allergy, a patient's going to have a response to wheat within minutes to hours.
Donc avec l'allergie au blé, les réactions sont dans les minutes ou dans les heures qui suivent, mais c'est direct.
For gluten hypersensitivity, it could be within hours or a day.
Avec l'hypersensibilité, ça peut être dans les quelques heures ou les quelques jours qui suivent.
And initially with celiac disease, it may take weeks or years for the damage in the small intestine to lead to symptoms.
Et donc dans la maladie cœliaque, ça peut prendre des semaines voire des années jusqu'à ce que l'intestin soit abîmé et que ça amène des problèmes.
We've already said that celiac disease is an autoimmune disease. Non. Wheat allergy is a true allergy, and we still have a lot to learn about gluten hypersensitivity.
Donc la maladie cœliaque est une vraie maladie auto-immune. L'hypersensibilité au gluten est quelque chose qu'il faut encore étudier parce que c'est encore très compliqué. C'est nouveau. Et l'allergie au blé, c'est donc l'allergie au blé et pas au gluten, au blé.
And to diagnose celiac disease, we have very good tests. First a blood test and then a procedure.
Donc pour la maladie cœliaque, il y a un test sanguin, comme on l'a vu, et c'est très précis.
For wheat allergy, again, it's a skin test and then a challenge with the wheat.
Et pour l'allergie au blé, c'est un test de peau. Et on voit les réactions.
But we don't have any tests for gluten hypersensitivity at this time.
Et il n'y a par contre absolument aucun test et aucun moyen de détecter l'hypersensibilité à l'heure d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui.
And although all of these are different, they have the same treatment, which is a strict gluten-free or wheat-free diet.
Et par contre, la solution est la même, c'est-à-dire l'éviction complète du gluten de son alimentation.
For patients with celiac disease, they cannot even have a crumb. A crumb is enough to cause damage to the small intestine and long-term complications.
What is a crumb? Okay. Donc pour la maladie cœliaque, on peut même pas avoir une miette. C'est vraiment à ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une miette si il y a une miette. Ça déclenche le mécanisme, donc c'est ça qu'on appelle la contamination.
For patients with gluten hypersensitivity, they may be able to tolerate a very small amount, or they may not. It's every patient is different.
Pour l'hypersensibilité, ça dépend vraiment de chaque patient. Donc certains ne toléreront pas les miettes non plus, mais certains peuvent tolérer ce qu'on appelle les traces.
But again, for patients with celiac disease, even a very small amount can lead to long-term complications.
Et donc, vraiment pour la maladie cœliaque, même une toute petite quantité peut amener à des complications sur le long terme.
Et je peux en témoigner encore. Là, récemment, en fait, on a un jargon, hein, on appelle ça on appelle ça être gluténé. Donc, je pense que là, récemment, j'ai été gluténée. Et donc, contaminé. Donc, il s'ensuit en fait plein de problématiques. Alors moi, comme j'ai une forme asymptomatique, en fait, les problématiques, elles sont pas digestives réellement. Elles sont plusieurs jours après, d'ordre digestif. Et alors, à l'inverse de tout ce qu'on peut lire, où on dit que c'est souvent les personnes doivent courir aux toilettes. Voilà, moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Voilà, ce genre de difficultés. Enfin, surtout, en fait, il y a ce lien, en fait. Alors au début, je faisais vraiment pas le lien, en fait, avec cette problématique de concentration, cet espace de brouillard mental qu'on a, où on n'arrive pas, en fait, à associer une idée l'une après l'autre. Donc très difficile de travailler, en fait, très difficile d'être efficace. Et puis après, cette sensation de dépression, où en fait on n'est vraiment pas bien, on est et puis s'installe une fatigue chronique, en fait, et cette fatigue chronique, elle est souvent liée à l'anémie, parce qu'en fait c'est dans l'intestin grêle que le fer est absorbé. Quand l'intestin grêle est abîmé, ben le fer est pas absorbé, et donc on a cette fatigue chronique, en fait, et ça fait que rajouter à l'inefficacité de travail et que rajouter au sentiment de dépression parce qu'on n'arrive pas à être efficace, etc. Et en fait tout ça, au début, je pensais vraiment que c'était absolument pas lié, en fait, à la maladie cœliaque, qui s'en rencontrant des gens qui ont aussi ces symptômes que j'ai compris. Et en fait, très récemment, en fait, ça m'est encore arrivé. Voilà, donc c'est quelque chose dont on peut témoigner. En fait, je vous parle souvent du fait que les gens me témoignent de tout ça. Et en fait, il y a 3 ans, maintenant, à peu près 3 ans, qu'avec mon époux, on a créé un magazine, en fait, complètement dédié à l'alimentation sans gluten, qu'on a appelé Niépi. C'est un trimestriel qui est disponible, en fait, pas dans le kiosque classique, mais dans un kiosque, le kiosque éco-citoyen. En fait, il est revendu en magasin bio. Il est revendu aussi par abonnement, voilà, sur Internet. On a créé ce magazine parce qu'on a vécu à l'étranger quand on est rentré en France il y a 4 ans, voilà, on s'est aperçu que ça n'existait pas encore en France, un magazine qui avait certainement, si nous on en rêvait, on n'était certainement pas les seuls à avoir un magazine dédié. Et c'est un magazine qui répond, en fait, à tous les questionnements et surtout qui donne des solutions de vie, en fait, quand on veut manger moins de gluten ou quand on doit s'en passer directement. Et en créant ce magazine, en fait, il y a plein de gens. Donc nous, déjà, on a eu une démarche journalistique. On s'est dit, tiens, les questions qu'on s'est posées, on a eu des réponses, et on va aller voir ces scientifiques, ces personnes que j'ai entendues sur des colloques médicaux. On va aller les voir et on va les interviewer pour le magazine, et on va apporter les réponses. Donc on a eu, voilà, c'est comme ça que j'ai eu plein de réponses, en fait, aux questionnements que je me suis posées et que je peux vous les partager aujourd'hui. Et puis aussi, j'ai eu plein de personnes, du coup, qui témoignaient, que je rencontrais, etc. Et je me suis aperçue, en fait, il y a des gens qui m'écrivaient, qui me remerciaient pour le magazine, qui souffraient de pathologies comme la maladie de Lyme, comme des spondylarthrite ankylosante, des maladies de Crohn et autres, en fait, et qui me remerciaient pour ce magazine en me disant j'en avais besoin, quand je me suis mise à manger sans gluten, ma vie a complètement changé, et voilà. Et moi, je ne comprenais pas. Mais quel rôle jouait le gluten ? En fait, je connaissais les 3 pathologies reconnues aujourd'hui, mais je ne comprenais pas pourquoi ces pathologies-là, pourquoi ces personnes-là, en fait, avaient une amélioration de leur état de santé, de leur bien-être en mangeant sans gluten. Et je me suis aperçue, en fait, qu'à chaque fois, le point commun entre toutes ces maladies, c'était l'inflammation chronique. Toutes ces maladies, en fait, ont comme point commun une inflammation, à différents endroits du corps, mais en tout cas une inflammation. Et en fait, c'est justement en ayant contact avec les recherches du docteur Fassano que j'ai compris ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, en fait, du rôle de l'intestin grêle, en fait, dans l'absorption des nutriments. Dans une absorption normale, en fait, les jonctions serrées de l'intestin sont bien serrées. Elles laissent passer, en fait, via le sang, juste les éléments nécessaires à la vie à partir du bol alimentaire. Et dans le cas, en fait, d'une porosité intestinale dont on parlait, il y a de grosses molécules, en fait, qui n'ont rien à faire dans le système sanguin, qui passent quand même. Et on sait, du coup, aujourd'hui, avec les travaux du docteur Fassano dont on parlait tout à l'heure, ce sont des travaux qui sont en cours. Le docteur Maureen, en fait, le précisera, mais en fait, on s'interroge encore beaucoup, mais cette zone uline, en fait, joue un rôle, en fait, dans l'ouverture des jonctions serrées, et on sait que le gluten, en fait, accentue la production de zone uline. Donc on sait, en fait, que le gluten a un rôle à jouer dans la porosité intestinale, et donc le gluten joue un rôle, a un rôle à jouer dans cette porosité intestinale, dans le sens où elle laisse passer, elle permet le passage de grosses molécules dans le sang. Ces grosses molécules, en fait, mettent en alerte le système immunitaire et produisent, en fait, cette inflammation chronique. Donc toutes ces personnes, en fait, qui souffrent de maladies et qui combattent, en fait, continuellement cette inflammation chronique, mangeant moins de gluten, elles diminuent, en fait, cette inflammation chronique. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien claire. En tout cas, si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc le docteur Maureen Leonard va expliquer plus précisément, voilà, comment se fait ce passage de grosses molécules dans le sang.
So as I said before, no one can digest gluten or gliadin completely.
Donc comme elle l'a expliqué plus tôt, absolument personne ne peut ne peut digérer complètement le gluten et la gliadine.
So it sits in the small intestine in everyone.
Donc ça passe et ça reste dans le petit intestin de tout le monde.
And it causes the release of the molecule zonulin, which allows the cells to move apart.
Et donc ça déclenche la production de cette zonuline qui permet aux cellules de se désolidariser.
That allows gluten molecules and other particles to come across the small intestine and interact with the immune system.
Donc ça permet de faire passer ça fait engendre le passage du gluten et d'autres éléments dans le système immunitaire.
And once there, it leads to an inflammatory response. So there's inflammatory chemicals that are released.
Ouais, excusez-moi. Alors, en fait, ça laisse passer des grosses molécules, pas dans le système immunitaire, mais dans le système sanguin. Et ça met en action en fait le système immunitaire. Ça le met en marche en fait. Voilà. Can you repeat? Sorry.
Sure. So once gluten and other molecules come through and talk to the immune system.
Quand ces molécules passent dans le système et donc rentrent en interaction avec ce déclenchement immunitaire.
Inflammatory chemicals are released that lead to inflammation in the body.
Donc ça déclenche des inflammations dans le corps.
We don't fully understand how the inflammation gets to other parts other than the small intestine, but we know it does.
On ne sait pas encore comment cela peut créer des inflammations dans d'autres parties que l'intestin, mais on sait que ça existe.
Because we've traced cells that have a signature from the small intestine into different areas like the brain.
Et parce qu'on a trouvé des signatures en fait qui montrent que ces inflammations sont dues à ça, en particulier dans le cerveau.
So we know that it travels.
Donc on sait que cela voyage dans le corps.
And we know that the increased intestinal permeability or this gut leakiness is very important to the development of autoimmune disease.
Et donc on sait maintenant que ce passage en fait développe énormément de maladies autres que la maladie cœliaque.
Donc elle parlait de migration en fait de certaines grosses particules qu'on retrouvait dans le cerveau et d'autres études en fait sur le rôle du gluten non pas simplement sur les pathologies inflammatoires. Donc d'autres études existent, voilà, non pas seulement sur les pathologies inflammatoires, mais aussi sur le rôle du gluten dans le dysfonctionnement cérébral. En fait, comme je vous le disais, c'est quelque chose que moi, je ressens, voilà, quand je suis contaminée, glutenée, cette espèce de brouillard mental et autres. Et puis, comme je vous le disais, c'est des témoignages que j'ai. C'est aussi ce qui arrive à ma fille, même encore aujourd'hui, quand elle est glutenée, cette difficulté de concentration et de mémoriser et autres. Et ça aussi, ça m'a posé interrogation. J'ai aussi rencontré des parents d'enfants autistes qui avaient vu des améliorations en mettant leur enfant en sans gluten. Pas forcément une guérison de l'autisme. Oui, ça existe aussi, mais je ne les ai pas rencontrés personnellement, j'en ai entendu parler. Mais en tout cas, une amélioration du comportement de l'enfant, beaucoup moins d'agressivité. Voilà, l'autisme était toujours présent, mais l'enfant était plus calme et arborait la vie avec beaucoup moins de nervosité. Là aussi, ça m'a posé à l'interrogation. Donc, je suis allée rencontrer en fait Elke Harold, qui est une personne qui a monté un collège scientifique en Suisse. Elle dirige l'association Stelior. C'est une personne dont les travaux ne sont pas reconnus, en tout cas par tout le monde, pas acceptés par tout le monde. Par contre, c'est des travaux qui sont faits depuis maintenant plusieurs années et qui sont repris par d'autres scientifiques aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Donc, moi, je suis allée la rencontrer. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est qu'elle m'avait dit « Ouais, j'ai qu'une demi-heure à vous consacrer. » Et en fait, c'est une personne qui a, je crois, entre 70 ans, quelque part aujourd'hui, maintenant, et qui est absolument passionnante. Et on est resté 4 heures à discuter. Elle a mis en place tout ça parce qu'elle a voulu répondre en fait, aux besoins de son enfant, qu'elle a réussi à guérir. Et donc, c'est très, très passionnant. Et elle œuvre aujourd'hui en fait, pour aider les familles, justement, à accompagner l'autisme et notamment par la mise en place d'un régime alimentaire spécifique. Et puis il y a aussi le docteur Campbell en Angleterre. Ce sont des personnes en fait qui ont déjà écrit en fait sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc le docteur Campbell en Angleterre, qui de la même manière, un médecin qui a voulu répondre aux problématiques de son fils et qui a mis en place en fait un régime alimentaire, notamment sans gluten, mais pas que. En fait, c'est un régime alimentaire qui exclut le gluten, mais aussi d'autres aliments et surtout qui vise à réparer. À réharmoniser la flore intestinale et à réparer la paroi en fait de l'intestin. Et toutes ces personnes en fait dans leurs recherches se sont interrogées justement sur le lien entre le cerveau et le système digestif et donc le lien entre le gluten et le cerveau. Alors comme je l'expliquais, alors c'est peut-être une redite, mais effectivement, on peut avoir un dysfonctionnement cérébral quand on est malade cœliaque à cause de la malabsorption, c'est-à-dire qu'au final, on ne va pas avoir les éléments nécessaires à un fonctionnement normal parce qu'on a une atrophie des villosités, on souffre de malabsorption de certains nutriments, donc le cerveau est malnutri. C'est la première cause. La deuxième cause, c'est qu'on sait aujourd'hui, en fait, c'est plus un secret, qu'il y a des neurones dans l'intestin qui sont en relation directe avec le cerveau, et quand l'intestin va mal, et ben le cerveau va mal. Voilà. Il y a une vidéo excellente sur le sujet qui a été faite par Arte, qui s'appelle Notre intestin, ce deuxième cerveau. On peut le trouver sur le site d'Arte. Et il y a un livre aussi très intéressant du docteur Jolie Gomez à ce sujet, qui porte aussi le même titre, L'intestin, notre deuxième cerveau. Très, très intéressant si vous voulez approfondir la question. Voilà. Donc, et la troisième difficulté, en fait, enfin, le troisième lien qu'on peut faire entre l'intestin et le cerveau, c'est en cas de porosité intestinale, comme on l'a expliqué. Porosité intestinale, passage dans le sang de grosses molécules, et notamment en fait de grosses molécules qui sont parfois pas suffisamment digérées, en tout cas pas digérées chez les personnes qui ont une carence enzymatique, notamment par exemple. En fait, il faut savoir que par exemple le lait, on le digère parce qu'on a des enzymes dans le système digestif. Si on a une carence enzymatique, ce qui est de plus en plus fréquente, et qui est en fait on a énormément d'enzymes digestives des produits laitiers quand on est enfant, elles diminuent avec l'âge. Quand on souffre de dysbiose, c'est-à-dire de déséquilibre de la flore intestinale, très souvent ces enzymes ne sont plus présentes ou sont présentes en moins grand nombre. Donc en fait, les protéines de lait, notamment la caséine, ne sont pas digérées. Quand on souffre de porosité intestinale, c'est que cette caséine en fait passe en fait, et elle vient en interaction au niveau synaptique, au niveau des connexions synaptiques dans le cerveau, elles agissent comme des opioïdes. Voilà. Et ça, c'est une des recherches du docteur Stelior, que je retrouve aussi maintenant dans d'autres écrits scientifiques aux États-Unis. Le docteur Maureen va nous donner davantage de précisions à ce sujet, sur le dysfonctionnement cérébral et le lien avec le gluten.
So it's certain that there's a connection between the gut and the brain.
Donc, comme on le disait, on sait maintenant qu'il y a une vraie connexion entre le système digestif et le cerveau.
I think most people at some point have felt nervous and felt that in their stomach.
Donc, on dit souvent en fait quand on est nerveux, on le ressent dans l'estomac, donc c'est pas juste une expression.
And we know that part of the communication between the gut and the brain is driven by the trillions of bacteria that live in our gut.
Donc, on sait que cette communication se fait par les milliards de molécules qu'on a dans le système intestinal digestif. Je commence à fatiguer, pardon.
Also known as the microbiome.
C'est aussi connu sous le nom de microbiote. Merci.
So what we eat helps certain bacteria in our gut thrive.
Donc
ce que nous mangeons finalement modifie la composition de bactéries dans le système digestif.
So if we eat a lot of carbohydrates, we may have a certain type of bacteria in our gut.
Alors, si nous prenons beaucoup de glucides, nous allons avoir une certaine quantité ou qualité de bactéries dans le système digestif.
And this will ultimately change what processes happen in our gut and what processes affect our brain.
Et cela va changer ce qui se passe, les processus de notre système digestif et aussi dans le cerveau.
It's too early to say exactly what's happening there, but we know that this is happening.
On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait que quelque chose se passe.
There are two theories on how gluten itself affects the brain.
Il y a deux théories qui peuvent expliquer comment le gluten affecte les fonctions du cerveau.
The first is called the opioid excess theory.
La première, c'est la théorie de l'excès des opioïdes.
So the thought is that when gluten is digested, it's digested into proteins that resemble opioids.
Donc c'est quand le gluten est digéré, il est digéré de façon à ressembler à des opioïdes.
These proteins can interact with opioid-like receptors and cause changes in the brain.
Ces protéines vont affecter, vont influencer des fonctions du cerveau.
The second theory is that gluten alters brain function through neuroinflammation.
La deuxième théorie, c'est que le gluten modifie la fonction du cerveau par l'inflammation.
And this is the idea we touched on earlier, which is that gluten causes an inflammation and the cells move from the gut to other parts of the body, including the brain.
Nous avons dit plus tôt que l'inflammation qu'on va trouver dans l'intestin va migrer dans d'autres parties du corps.
We favor the second hypothesis at Harvard.
À Harvard, on favorise la deuxième théorie ou hypothèse.
But it's possible that both are working together.
Mais il est possible qu'il y ait les deux ensemble.
So gluten can lead to many different types of symptoms in the brain, whether it's from headache to problems learning or even psychosis.
Donc on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de symptômes cérébraux qui sont liés au gluten, comme de l'anxiété, la dépression, voire de l'autisme.
While we know gluten causes celiac disease 100% of the time, we know less about how often it causes other brain abnormalities.
Donc si on sait aujourd'hui que le gluten est responsable de 100% des maladies cœliaques, on ne sait pas en fait encore par rapport à l'autisme ou la schizophrénie.
We know that it contributes to the development of schizophrenia in some patients.
On s'est rendu compte que ça permet le développement de la schizophrénie chez certains patients.
20% of research shows 20% of patients with schizophrenia it may have been triggered by gluten.
Donc 20% des gens diagnostiqués avec de la schizophrénie ont été touchés par le problème de gluten.
And we know that some patients with autism who go on a gluten-free diet feel better and improve.
Et on se rend compte en fait que les personnes qui ont des problèmes de schizophrénie qui mangent sans gluten ont leurs conditions améliorées.
It doesn't work for everyone.
Ça ne marche pas pour tout le monde.
But we as scientists need to do a better job of identifying who it will help and to try and do that early.
Donc en tant que scientifique, notre travail est de développer cette recherche et voir qui cela aide.
Before long-term complications set in.
Avant des complications à long terme.
Donc on en revient toujours à cette grande question, mais on a toujours mangé du gluten, donc pourquoi est-ce qu'on se dit que pourquoi le gluten pose autant de problèmes aujourd'hui? Donc la maladie cœliaque, on sait qu'elle existe depuis plusieurs années.
So the first description of celiac disease was in 250 AD.
La première découverte, enfin la première fois dont on a parlé de la maladie cœliaque, c'était 460.
The first description was in 1888.
Et la première description était en
1888.
And the link between celiac disease and wheat was not identified until the 1950s.
Et le lien entre la La maladie cœliaque et n'a pas. Enfin, j'arrive plus. Excusez-moi.
But the link between celiac disease and wheat wasn't made until the 1950s.
Et le lien entre la maladie cœliaque et le blé n'a pas été fait avant le 19e siècle.
So Hippocrates said a long, long time ago that all disease begins in the gut.
Donc Hippocrate a dit il y a très longtemps que les maladies commençaient dans le système digestif.
Celiac disease has been described for a very long time.
La maladie cœliaque a été, on en parle depuis très très longtemps.
Gluten hypersensitivity has been described for at least 30 years.
L'hypersensibilité au gluten, par contre, on en parle depuis juste une trentaine d'années.
But over the past 10 years or so, there has been a resurgence in both the scientific literature and the sort of general literature.
Et depuis une dizaine d'années, il y a vraiment une, on en parle beaucoup dans les études scientifiques et aussi dans des ouvrages médicaux.
Donc voilà. Donc oui, on en parle de plus en plus. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, quand on parlait de cette prédisposition génétique à la maladie cœliaque, 20 ou 30 à 40%, je ne me souviens plus, mais qu'il y a davantage de facteurs déclenchants dans notre mode de vie, donc on peut avoir la réponse à pourquoi plus de maladies cœliaques aujourd'hui. Cette hypersensibilité, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose de nouveau. C'est un phénomène de société. Il y a beaucoup encore à apprendre. En tout cas, voilà, il y en a de plus en plus. Donc pourquoi ? Plusieurs réponses à ça. Voilà, de la même manière, il n'y a pas quelque chose de très catégorique. Donc on sait que les blés ont été transformés génétiquement. Voilà, il faut qu'ils soient bien rangés. Il faut qu'ils aient une bonne hauteur pour permettre une récolte plus facile avec les machines. Voilà, il faut d'insecticides, pesticides pour un meilleur rendement. On sait qu'il y a une interaction en fait pas toujours très claire en fait entre les différents insecticides entre eux, et on peut se poser aussi la question de ce fameux facteur déclenchant polluant en fait. Voilà, on sait aussi très clairement aujourd'hui, c'est plus un secret, qu'on rajoute du gluten pur en fait dans notre pain quotidien. Donc non seulement le gluten a été modifié, mais il est rajouté pur en fait dans pas mal d'aliments, toujours de la même manière pour accroître le rendement. Dans les pains industrialisés, bien sûr, il faut que la levée se fasse facilement. Vous savez, le gluten, c'est ce qui, comme je vous disais, permet le liant et l'élasticité. Avec l'aide de la levure, en fait, cette élasticité va permettre d'enfermer les gaz et va permettre une belle levée. Donc, quand il y a beaucoup de gluten, en fait, on a des pains avec cette mie bien aérée. Donc, c'est ce qu'on recherche. Après, on arrive avec ce genre d'aberration. Voilà, une pâte très, très élastique. En avons-nous vraiment besoin ? Et puis il y a toute cette problématique qu'on a déjà évoquée, donc tout ce gluten caché, donc un blé modifié qui contient contient plus de gluten déjà à la base, du gluten rajouté pur dans notre consommation quotidienne, et ce fameux gluten caché qu'on retrouve partout. On en arrive à un trop plein de gluten. Avons-nous vraiment eu le temps de nous adapter ? En fait, c'est la grande question. Quand on réfléchit vraiment à ce qu'on met dans notre assiette, notamment en Occident, où les maladies cœliaques sont plus fréquentes. Alors, je parle souvent de la maladie cœliaque parce que c'est vrai que ça me touche plus particulièrement, mais il y a 1% aujourd'hui de la population qui est malade cœliaque en Europe, un Américain sur 133, et dans les pays d'Asie, on a beaucoup moins. On a vécu notamment à Singapour. Ma fille avait été malade, et quand elle est malade, il y a des médicaments qui contiennent du gluten. Donc on est allé voir un médecin, on lui a dit ma fille, elle a maladie cœliaque, ok, elle a une forte fièvre, mais il faut faire attention à ce qu'on lui donne. Il ne savait pas ce que c'était que la maladie cœliaque. C'était il y a 4 ans, 5 ans. Voilà. Donc dans nos pays occidentaux, le blé est omniprésent. Donc ces maladies, en fait, elles sont plus présentes également. Donc on me dit souvent, ok, d'accord, il faut que je mange moins de gluten, alors soit il faut que j'en mange plus du tout, en fonction de ce que vous ressentez personnellement, soit on peut se dire, ok, il faut que j'en mange moins, parce qu'effectivement il est omniprésent. Mais on a vu même des articles où c'était un peu polémique, il y avait une polémique autour du « mais c'est pas dangereux de manger sans gluten ». Alors en fait, le gluten, on n'en a pas besoin. En fait, nutritivement, on n'a absolument pas besoin du gluten. Dans gluten, on entend glu. C'est pas quelque chose qui apporte un élément nutritif du tout au corps humain. Et puis, quand je dis qu'on entend glu, en fait, ça provoque, ça rallonge les digestions parce que c'est quelque chose qui est difficile à digérer. Voilà. Quand on se passe des céréales qui contiennent du gluten, le gluten, en fait, on s'en fiche. Par contre, en se passant de céréales qui contiennent du gluten, on se passe aussi d'éléments nutritifs qui sont dans ces céréales. La bonne nouvelle, c'est que dans les céréales sans gluten, en fait, il existe également ces éléments nutritifs. Dans ma cuisine avant, j'avais une farine. Aujourd'hui, j'en ai, là, je vous en ai listé 16. C'est celle que j'ai dans ma farine, dans ma cuisine. Je ne vous dis pas de faire pareil, mais en fait, c'est pour vous montrer la diversité. Et il y en a bien d'autres. Et il y en a encore qui vont arriver sur le marché, en France notamment, avec des farines d'oléagineux. Elles ont toutes, du coup, en fait, des propriétés gustatives, intéressantes, parce qu'il faut bien se l'avouer, la farine de blé, elle est neutre en termes de goût. Hein, quand vous cuisinez avec une farine de châtaigne ou de sarrasin, ça apporte quelque chose de gustatif très intéressant. Et puis, sur un plan nutritif aussi, elles sont très intéressantes et elles ont toutes une particularité, notamment dans la farine de quinoa ou dans le quinoa, vous avez les 8 acides aminés essentiels. Voilà, ce sont des farines qui sont cultivées en France. Aujourd'hui, il y a le quinoa, le chanvre, le riz, le sarrasin, la châtaigne qui est cultivée en France. Puis il y en a d'autres qui viennent de pays voilà, africains comme le sorgho, le teff, ou de pays d'Amérique du Sud comme l'amarante, le manioc. Voilà, donc il y a vraiment, vraiment de quoi s'amuser. Et alors vraiment, si on met de la variété dans son assiette, il n'y a absolument aucune raison d'être en carence quand on mange sans gluten. Par contre, effectivement, si vous dites je vais manger sans gluten et je vais chercher en fait les produits sans gluten qui sont dans mon supermarché, il existe une junk food avec gluten mais aussi sans gluten. Et là, vous risquez effectivement d'avoir des produits qui sont très sucrés, très gras, pas forcément avec des bonnes matières grasses et qui ne sont pas du tout équilibrés sur un plan nutritionnel. Donc manger sans gluten, ce n'est pas dangereux si on mange correctement sans gluten. Voilà. Je voulais terminer la conférence en fait non pas sur une note négative parce que c'est vrai quand on fait le bilan en fait de tout ça de ce qui est ce qu'on sait aujourd'hui donc ces trois pathologies et toutes ces interrogations autour du gluten et toutes ces études qui sont en cours en fait ça peut paraître très négatif mais à la fois c'est très positif parce que comme je vous le disais quand on a une problématique et qu'on a juste une éviction pour résoudre tous les problèmes ça c'est déjà hyper positif. En mettant en place l'alimentation sans gluten, au début, ça a été très compliqué parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte de la complexité de la chose. Après, par contre, il s'est installé quelque chose en fait de très positif. Une fois, la seule chose compliquée, c'est vraiment quelque chose dont j'entends les témoignages et même quand je suis en atelier de cuisine avec les gens qui ne savent pas cuisiner au début, que je les revois après, la seule chose difficile, c'est de changer ses habitudes et d'accepter ça. Une fois qu'on a appris à faire ses courses différemment, qu'on a appris à cuisiner différemment, il y a des astuces pour cuisiner les farines non panifiables, bien évidemment. Dans la majorité des recettes, en fait, pour remplacer la farine de blé, on va jouer avec 2, voire 3 ou 4 farines. Mais ça s'apprend, ça se fait, c'est assez facile et c'est juste, en fait, la difficulté, c'est de passer ce cap-là. Une fois que ce cap-là est passé, en fait, on s'aperçoit qu'on s'alimente davantage en conscience. En fait, on ne va pas manger simplement parce qu'il faut se remplir, mais on va chercher, en fait, on va avoir cette notion de vouloir vraiment se nourrir en conscience. Voilà, on va aller au marché, on va chercher on va chercher les produits bruts, le produit industriel. Quand on cherche à manger sans gluten, c'est compliqué. Lire des étiquettes, ça devient compliqué. Alors, ça devient plus facile en fait d'aller chercher le produit brut et de revenir à quelque chose de plus sain au final. Quoi de plus merveilleux que de manger un fruit sous un arbre, hein, voilà. Je dis souvent, même si vous n'avez pas de jardin, plantez un pied de fraise sur votre balcon, arrosez-le avec vos enfants et laissez-le regarder la joie en fait, chez lui de voir mûrir le fruit et puis de le manger au moment où il est encore chauffé par le soleil. Et au niveau goût, il n'y a rien de meilleur. Je comprends parfois les enfants qui ne veulent plus manger de fruits parce qu'ils mangent des fraises en décembre qui n'ont pas de goût. Il y a toute cette richesse-là de l'idée de s'alimenter en conscience en fait, qu'on retrouve vraiment quand on se dit je veux redonner de l'importance à l'acte de manger et savoir ce que je mets dans mon assiette. On retrouve aussi le plaisir de cuisiner. Parce que quand on choisit un aliment brut et qu'on le cuisine, en fait, il se passe quelque chose d'autre. Surtout quand on a rencontré le producteur, par exemple. La convivialité est différente en fait quand vous mettez sur la table un plat qui sort du congélateur que quand vous l'avez préparé. Il y a quelque chose de différent, on y met autre chose aussi et on a envie de le partager. Et ça, faut pas le perdre. Hein. Faut surtout pas le perdre quand on est dans l'obligation de manger sans gluten. C'est quelque chose qu'on perd assez facilement. L'autre point positif, c'est la diversité alimentaire. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai remplacé une farine par plusieurs farines sans gluten qui ont des goûts différents. Et ça apporte une vraie diversité sur un plan nutritionnel, mais aussi sur un plan gustatif. Les gens me disent « Ouais, vous êtes sans gluten, c'est triste. » Non. Parce que il y a énormément de goûts différents, en fait. On apporte énormément de variétés. Et encore, autant sur le plan gustatif que sur le plan nutritionnel. voilà, au niveau des farines. Et puis aussi, en fait, il se trouve que, bah, du coup, comme on avait l'intestin très abîmé avec ma fille, on n'avait plus cette enzyme de digestion des produits laitiers d'origine animale. On l'a appris après. Donc, carence, voilà. Donc, on ne peut pas digérer, en fait, tous les produits d'origine animale. Donc, on est aussi à la maison sans gluten et sans lait. Voilà. Donc, il a fallu chercher des solutions. Et là aussi, j'ai découvert qu'il existait une variété infinie de lait d'oléagineux. Bon, alors, je ne sais pas si on devrait vraiment les appeler lait, mais en tout cas, de boissons végétales. C'est très facile dans pratiquement toutes les recettes de remplacer le lait animal par un lait végétal. Et là encore, on joue sur le plan nutritif et sur le plan des saveurs. Vous n'aurez pas la même chose, vous pouvez vous faire une crème toute simple au lait de coco. Si vous utilisez un lait de noisette, vous n'avez pas du tout le même résultat. Donc là encore, vous variez les plaisirs avec une même recette. La question s'est posée aussi pour les sucres. En fait, à un moment donné, je me suis dit, ben, si je varie ma cuisine, quand même, le sucre blanc raffiné est omniprésent, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et là, je me suis rendu compte de la même manière qu'on pouvait apporter de la diversité en saveur et sur un plan nutritionnel en utilisant différents sucres. Je me suis vraiment posé cette question aussi parce que je voulais faire des bonbons pour ma fille. Et je m'apercevais en fait que très souvent, il y avait ce sirop de glucose utilisé dans les recettes. Et vous savez, le sirop de glucose, en fait, c'est très, très utilisé parce que c'est pas cher. En fait, aussi, je me suis aperçue qu'on l'utilisait parce que c'était un sucre liquide. Et en fait, dans certaines recettes, utiliser un sucre liquide amène autre chose au niveau de la texture. Et je me suis voilà. Donc, je vais jouer à utiliser du sirop d'érable ou des miels, alors acacia, châtaignier ou autre. Voilà, on obtient différents résultats. Voilà. Je suis rappelée un peu à l'ordre au niveau de l'horaire, donc je vais aller vite. Et le dernier point, vraiment super important, c'est qu'en fait, ça apporte de la créativité en cuisine. Et ça, c'est excellent. Comme je vous disais, j'ai dans les ateliers de cuisine très souvent des gens qui ne savent pas cuisiner. Et quand je les revois après, en fait, ils s'amusent à cuisiner. Et ça, c'est génial. On n'a pas tous la chance, en fait, d'avoir des métiers créatifs. Et je pense que mettre de la créativité dans ce qu'on fait dans nos vies en tant qu'être humain, c'est très très important, c'est une manière de s'exprimer et on a besoin d'exprimer cette créativité et parfois la trouver en cuisine, c'est quelque chose de magique. Voilà. On a souvent l'impression que cuisiner sans gluten, ça va prendre du temps. Alors là, c'est un exemple de recettes qui se font en 15 minutes chrono, qui sont dans le livre Goûter sans gluten. Voilà, les bouchées au chocolat ou autre. Voilà. L'important, comme je disais, c'est de changer ses habitudes. Alors, on y reviendra dans les questions, mais voilà, je peux vous donner plein d'astuces pour changer le petit déjeuner ou les desserts de fête. Voilà. Donc, cette conférence, elle a lieu et j'ai été invitée ici parce que voilà, j'ai sorti 4 livres sur le sujet, 4 livres qui me semblent essentiels quand on débute l'alimentation sans gluten, qui sont pour moi, en fait. Un moyen de partage pour les personnes qui sont dans l'obligation de manger sans gluten, mais aussi pour les personnes qui veulent amener de la diversité dans leur assiette et pas s'enfermer autour d'une simple farine. Voilà. Ces ouvrages sont aussi sans produits laitiers d'origine animaux. Je vous remercie beaucoup.
Thanks to the doctor. Yeah, thank you. Lorraine, who came from Boston to talk to you tonight.